La deuxième édition du Festival du Bordu se prépare pour être fin prêt du 8 au 10 juillet prochain à Cajar. Ce festival de théâtre vous est proposé par Jean Meyer et la compagnie La Bête à Cornes, basée aujourd'hui à Cajar, après avoir débuté ses activités artistiques à Toulouse. Alors comment s'est passée l'édition de l'an dernier et que va nous proposer la prochaine édition? Nous allons en parler avec Jean Meyer, directeur artistique de la compagnie La Bête à Cornes et fondateur du festival, ainsi que Michel Galaret, notre conteur que nous connaissons tous bien ici. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Fred et bonjour tout le monde.
Alors cette édition 2022 arrive après une première édition l'an dernier. Comment s'est passé? Comment s'est déroulée cette première édition déjà, Jean?
La première édition s'est plutôt bien déroulée. Donc juste pour mettre un petit rectificatif par rapport à ce que tu as dit, ce n'est pas qu'un festival de théâtre, c'est un festival vraiment des arts vivants où il y a du théâtre, de la danse, du conte, de la musique, des arts plastiques. Donc ça s'est bien passé l'an dernier. On a eu à peu près une fréquentation de 500 personnes sur les 3 jours. Pour un premier festival, c'était bien. Je crois que les retours que l'on a eus, les gens étaient contents de l'ambiance qu'il y avait dans le festival, cette ambiance assez familiale où tu pouvais voir par moments des gamins qui galopaient dans un coin. C'était aussi ce qu'on avait envie d'être un petit festival assez proche des gens. Et voilà, je crois que ça a été plutôt une réussite l'an dernier.
Alors, on passe de 3 jours, les 3 jours du Bordu, au Festival du Bordu.
Oui.
Une évolution.
On ne sait jamais qu'un jour, on dure plus longtemps ou moins longtemps que 3 jours. On s'est dit, c'est dommage de s'enfermer là-dedans. Et donc, on s'appelle le Festival du Bordu. C'est pour ça.
Oui.
Mais cette année, le festival dure encore 3 jours.
Oui, voilà. Vendredi, samedi et dimanche.
8, 9, 10 juillet.
Voilà, donc avec plein de spectacles et des contes.
On rappelle peut-être quand même, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pourquoi ça s'appelle le Festival du Bordu.
Oui.
Donc chez nous, à Cajar, tous les jeunes qui le soir vont boire un coup, fumer, tout simplement.
Une cigarette.
Ils vont au Bordu, c'est-à-dire au bord du Lot. Donc c'est devenu le Bordu, on a supprimé Lot et c'est devenu vraiment chez les jeunes le Bordu. C'est comme ça que le nom du festival est né. Voilà.
Exactement, et nous sommes au bord du Lot et non au bord du Célé, parce que certains confondent, c'est pour ça que je le précise.
Ah oui, oui.
Donc Cajar est au bord du Lot.
Une édition donc avec plein de nouveautés,
oui,
aussi.
Oui. Alors les nouveautés par rapport à l'an dernier, c'est que cette année on a voulu proposer des spectacles pour les enfants. L'an dernier, il y avait des animations pour les enfants. Déjà, la grosse nouveauté, c'est que l'an dernier, il y avait une grosse compagnie qui était une compagnie de Lyon qui était arrivée avec son chapiteau. C'était le collectif Le Cœur à Fond et qui, cette année, pour des raisons X et diverses, n'ont pas pu revenir. Et donc, cette année, c'est nous qui gérons la totalité du festival, hein, jusqu'à le montage du chapiteau, etc. etc. Et donc, l'an dernier, il y avait eu des animations pour enfants. Ça avait beaucoup plu. On s'est dit cette année, ça serait bien qu'on propose des spectacles pour enfants. Donc le samedi après-midi et le dimanche après-midi, il y aura de 15h30 à 17h un moment où il y aura 2 spectacles pour enfants. On dit, alors notre argument publicitaire, c'est 2 spectacles pour le prix d'un, c'est-à-dire on fait 2 spectacles pour enfants pour 6 euros, avec en plus un goûter qui sera offert aux enfants, pour créer aussi un moment sympa, convivial, et que ça soit... il y a un spectacle, le premier spectacle, c'est une magicienne, et puis le deuxième spectacle, ce sont des marionnettes avec les mains, uniquement les mains, il n'y a rien sur les mains, mais voilà. Et c'est la main gauche qui voudrait être aussi à droite que l'autre.
Rassure-moi, c'est aussi pour les adultes.
Bien sûr, c'est tout public. Mais c'est aussi quand même pour les jeunes enfants. On sait que ça peut vraiment leur parler. Après, les adultes, ils sont capables de se régaler sur ce genre de spectacle.
Et de partir dans le magnifique...
Voilà. Mais à l'inverse, si on avait proposé un Entendant Godot pour les enfants, c'est pas sûr qu'ils soient rentrés dans le spectacle. Donc on propose un spectacle vraiment dédié aux enfants et on sait que les parents, ils peuvent y trouver leur compte aussi.
Et c'est pas parce qu'on a dit qu'il y en avait 2 pour le prix d'un que c'est un spectacle sur les lunettes. Hein.
Non, tout à fait.
Pas du tout.
Ni sur les chauves, mais ça, il n'y a que les gens qui peuvent nous voir, qui peuvent comprendre.
Tout à fait. Alors, en suivant, Il y aura...
Alors, donc la nouveauté, spectacle pour enfants. Il y a, comme l'an dernier, des concerts avec des musiques quand même assez variées. Ça va du rock, reggae, du jazz. Il y a une grosse soirée flamenco le samedi soir avec Bernardo Sandoval et Serge Lopez.
À ne pas louper,
bien sûr. Il y a aussi des danses folkloriques. Il y a aussi un bal traditionnel de danse trad à la fin du festival. On a essayé d'être, comme l'an dernier, très éclectique pour rejoindre le public cajarquois et du Lot et aussi les touristes qui seront là, même s'il n'y en aura pas forcément beaucoup parce qu'on joue, c'est vraiment la première semaine des vacances. Mais on n'a pas changé la date parce que l'an dernier, ça avait plutôt bien fonctionné. Et puis, il y avait cette envie aussi l'an dernier
Un bol d'air.
D'aller voir un spectacle, mais c'est un peu pareil cette année, parce que quand on en parle, les gens ils disent ouais, ça nous tarde de revenir dans un festival. Voilà, donc il y a aussi du conte, du théâtre, il y aura aussi un jongleur qui vient, qui fait une conférence humoristique sur le jonglage. Voilà, je crois que...
Comment on constitue une programmation? Parce que là, j'imagine que vous y travaillez depuis l'année dernière. On va voir des spectacles, on se déplace, on a des coups de cœur.
C'était compliqué de se déplacer parce qu'on a constitué la programmation en octobre. Il y avait encore des restrictions et tout ça, même l'an dernier. Donc, en fin de compte, il y a des spectacles que moi, personnellement, j'avais déjà vus. Il y a des spectacles que je n'ai vus que sur des vidéos. Mais après, il y avait des gens que je connaissais, comme Sandoval et Lopez, que je connais parce que je suis d'origine toulousaine. Mais effectivement, on n'a pas pu vraiment se déplacer autant qu'on l'aurait souhaité parce qu'il y avait encore des restrictions. Et même quand on a donné l'autorisation de faire un spectacle, il y a certaines communes, c'est encore assez frileux, même les salles, le temps que tout se remette en route. Et puis les salles devaient rattraper le retard aussi des autres années.
Oui, donc, ça s'est bousculé un petit peu.
Donc en fin de compte, on a essayé de voir tous les spectacles, mais pas forcément tous en live. Voilà.
Et quant à la programmation, il y a quelque chose à noter quand même sur ce festival, c'est que le Festival du Bordu laisse une large place aux artistes locaux. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de chouette. Bon, évidemment, j'en profite, mais beaucoup de festivals ne prennent pas des artistes locaux. On sait bien que nul n'est prophète en son pays, mais je ne vois pas pourquoi des artistes seraient très reconnus à l'extérieur et ne seraient pas reconnus chez eux. Donc, c'est une part importante des artistes locaux, et ça, je crois que c'est à noter quand même.
Oui, côté musique, j'ai cru comprendre qu'il y avait les copains des Hungries qui jouent.
Oui, tout à fait, oui. Alors, je pense qu'on rentrera plus dans le détail
si on fait
une autre émission plus proche du festival, mais effectivement, ce sont des artistes locaux. Je pense que les artistes les plus éloignés viennent de Toulouse. Je pense que les plus éloignés. Donc, on reste dans l'Occitanie. Et voilà, il n'y a pas de... C'est pas qu'on est contre les autres artistes, mais c'est vrai qu'on est dans une région où il y a énormément de talents. Ces talents-là ne sont pas forcément tous connus du public et cajarquois et lotois. Et donc, on avait envie d'être un tremplin. En restant à notre modeste place, mais d'offrir cette possibilité aux artistes locaux d'être entendus et puis voilà, appréciés, je l'espère.
Et justement, donc Michel, toi, tu vas nous conter quelques histoires aussi. Vers où tu vas nous amener, vers quelle contrée tu vas nous amener?
Oui, un petit peu, mais je ne vais pas le dire là.
Ah ah. Tu vas garder un peu le spectacle.
En fin d'émission, je peux vous donner un petit bout d'histoire, mais...
Un petit bout.
Comme ça, oui.
Alors, moi, il y avait une chose que je souhaitais ajouter par rapport au festival. Alors, quand on a discuté ensemble, le collectif d'organisation, sur l'éventualité de faire une deuxième édition, on était tous d'accord, et tous d'accord aussi pour rester, pour le moment, un petit festival. Donc, petit festival, ça veut dire aussi, on a un chapiteau, mais petite jauge. Hein, on n'est pas un spectacle qui peut accueillir 10 000 personnes. Donc, sous le chapiteau, que ce soit le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi. La jauge, elle est de 100 places. Et donc la billetterie sera ouverte bien avant. Hein, pour les spectacles du soir, c'est ouvert à 19h. Pour les spectacles de l'après-midi, c'est ouvert à 14h. Donc voilà, il ne faut pas que les gens traînent trop. L'an dernier, même pour la première édition, on avait été obligé de refuser du monde. Ça fait que 100 places, c'est peu, mais voilà. En tout cas, après les autres spectacles, c'est au Théâtre de Verdure. Là, il y a beaucoup plus de places. Mais les spectacles qui sont sous chapiteau, ben voilà. En tout cas, en plus cette année, on a loué des gradins pour que les gens soient vraiment bien installés et pour que les 100 places soient vraiment des 100 vraies places où les gens, où qu'ils soient, y voient et profitent bien du spectacle. Donc ça, c'est un point que je voulais citer. Et puis, je voulais vraiment insister sur le côté tout public et le côté, entre guillemets, populaire du festival. Alors, je l'avais déjà dit l'an dernier, pour moi, le mot populaire, c'est pas un vilain mot.
Ah non, au contraire. Hein.
Et populaire aussi parce qu'on fait toujours le choix d'essayer d'offrir des prix très, très bas. Le spectacle le plus cher, il est à 10 euros. Et il y a des soirées où on peut voir deux spectacles pour 10 euros et deux spectacles pour 6 euros pour les enfants. Et après, il y a beaucoup de spectacles qui sont entrées libres où les gens donnent ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà, on essaye vraiment de proposer quelque chose. Et puis la nouveauté par rapport à l'année dernière, puis après j'arrête, c'est qu'on fait de la restauration sur place. Donc c'est nous qui allons préparer à manger, qui allons proposer des petits plats donc aux festivaliers. Et en essayant d'être au maximum zéro déchet, je dis bien au maximum, c'est-à-dire qu'on va manger dans des vraies assiettes, avec des vrais couverts. Et voilà, c'est aussi notre envie de participer à cette démarche. Et d'ailleurs, sur le lieu du festival, il y aura un stand avec l'association Zéro Déchet de Cajarc qui présentera aussi sa démarche, voilà, et puis qui proposera peut-être de... Voilà, enfin, je ne dévoile pas tout, mais il y aura des surprises. Voilà.
Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ?
Alors oui, on est à la recherche de bénévoles. On en a quelques-uns, mais effectivement, s'il y a des gens qui sont intéressés par le bénévolat, que ce soit aussi bien pour les entrées, pour la restauration, pour tenir la buvette, mais aussi pour permettre la circulation facile sur le site, on est tout à fait preneurs. Il suffit que les gens me contactent, soit sur le site de la compagnie La Bête à Cornes, soit sur la page Facebook aussi de la compagnie La Bête à Cornes, ou ma page Facebook à moi. Voilà, il n'y a pas de souci, ils trouveront, c'est assez facile à trouver. On tape Compagnie La Bête à Cornes sur Internet et on tombe. Voilà, et puis il y a aussi une page qui est réservée au festival.
Et donc bientôt le programme dans son intégralité sur le site. Les flyers, les affiches vont pas tarder à arriver. On va avoir des affiches un petit peu partout sur le territoire, voire même un petit peu plus loin. Hein.
Mais oui, parce que surtout...
Faut pas les oublier, voilà, les autres lots.
Voilà, tout à fait. Et surtout sur les spectacles pour enfants, comme les deux comédiennes ont accepté de jouer deux jours, ça fait deux jours, avec une jauge de 100 places, alors enfants et parents. Donc, déjà l'an dernier, on avait fait des démarches vers Villefranche et tout ça, mais on veut aussi s'étendre un tout petit peu, donc s'étendre un tout petit peu sur l'Aveyron, le Lot, mais l'an dernier, on avait fait de la pub presque que sur Figeac, mais aussi sur un peu le haut du Lot. Donc voilà, on va essayer de faire le plus de com possible.
Mmh. Alors une petite question qui va vous relier un petit peu tous les deux. Quel est le point commun entre un comédien et un conteur, tiens ?
La coupe de cheveux.
Ah, c'est ça.
Ouais, on échauffe tous les deux pour ceux qui ne vous voient pas.
Je laisse parler Michel.
Oui, alors c'est toujours une question qui revient. Ça n'a rien à voir.
Eh oui.
Ça n'a rien à voir et ça a à voir aussi. Dans le sens où un comédien, mais Jean le dira mieux que moi, un comédien a un texte d'auteur. Donc il doit respecter à la fois le texte et l'auteur et puis se le faire à soi. Et moi, je vais dire un mot qui n'est pas beau, mais il est un peu prisonnier de ce texte-là.
Alors que nous, pas d'accord.
Alors que nous, conteurs, on est beaucoup plus proche du cinéaste qui prépare son film. Les histoires, les contes traditionnels, il n'y a pas d'auteur. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. On n'apprend jamais un texte par cœur quand on raconte, sauf cas exceptionnel où on veut ressortir un texte parce qu'il est beau ou qu'il a une valeur. Mais sinon, on se fait un film de l'histoire. Et c'est le film qu'on va dérouler dans notre tête et qu'on va vivre pour le faire vivre au public. Donc c'est un travail plus proche d'un cinéaste que d'un comédien dans ce sens-là. Après, bon, on a le travail sur scène, la présence sur scène, celle-là, elle est valable pour un comédien
le autant que public,
pour un conteur. On a des conteurs, alors il y a des liens, évidemment, hein, puisque dans les conteurs, il y en a beaucoup qui sont issus du théâtre et qu'on voit de suite. Nous, on dit les théâtreux comme ça, mais bon, ça n'a rien de vraiment péjoratif. Hein. Et puis des conteurs qui sont issus de la tradition du conte, où le conteur, en gros, la caricature, c'est s'asseoir sur une chaise et uniquement par la force de sa façon de raconter est capable de vous faire gober une histoire. Et je dis bien la façon de raconter, parce que moi, personnellement, en tant que conteur, c'est le travail que j'essaie de faire, de mettre en avant. Si on vous dit comme ça l'histoire du petit chaperon rouge, ça n'a rien d'extraordinaire, quoi, comme histoire, comme ça, apparemment. Mais suivant comment on va la raconter, elle va complètement vous embarquer, ou pas vous embarquer, mais vous faire réfléchir à des choses. C'est uniquement le travail du conteur qui doit faire cette accroche, quoi.
Est-ce qu'on est prisonnier d'un texte ?
Déjà, la différence des mots. Michel, il parle de raconter. Moi, je parle plus d'interprétation quand je suis sur scène. Et après, je crois que le comédien ou le metteur en scène, comme le disait Michel, et là-dessus, il a raison, on présente un texte. Et il y a aussi cette volonté de faire découvrir un texte au public, le texte d'un auteur qui est, si on l'a choisi, c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on... Et puis il y a donc il y a le travail de servir et faire au moins que les gens entendent ce texte et se régalent de ce texte qui a été écrit d'une certaine façon. Voilà pourquoi on ne change rien dans la construction du texte, hein, parce qu'un auteur dramatique, il réfléchit quand même un bon moment avant. C'est pas la même écriture qu'un romancier. Donc il y a une façon d'écrire le théâtre, il y a une façon de le dire, hein. Moi, quand je découvre un texte, je le dis à voix haute pour voir si. Et bien souvent, les textes des grands auteurs dramatiques, ils sont très faciles à dire, hein. Et des fois, quand on accroche un peu, bon. Mais donc il y a l'interprétation, servir ce texte, et puis il y a le travail du comédien. Et là, on a quelques points communs, même si nous, effectivement, on est plus dans le jeu par rapport peut-être à un conteur qui sera plus dans ce rôle plus naturel, plus près des gens, à interpeller les gens, à les faire participer. Ça existe aussi au théâtre, hein, mais dans le théâtre de texte, moi, celui que j'aime bien, on interpelle les gens par leur regard, on peut à un moment donné attraper un regard de quelqu'un, mais je ne vais pas forcément m'arrêter et à un moment donné interpeller quelqu'un dans la salle, chose qu'un conteur peut faire ou peut faire répéter, s'arrêter un moment parce qu'il sait très bien que le public, à force d'avoir entendu la même phrase, la phrase magique entre guillemets, va la répéter. Chose qu'on fait rarement au théâtre. Mais après, globalement, on est quand même face à un public et il y a certaines techniques, entre guillemets, qui sont identiques.
Qui sont identiques. Oui.
Alors, dans ce que tu dis, Jean, il y a un mot que j'aime bien et qui nous relie, c'est le mot « servir ». Qu'on soit comédien ou qu'on soit conteur, comédien, on va servir un texte et un auteur. Et servir, c'est pas dans le sens... servir, chez nous, a un petit sens péjoratif dans le sens où ce n'est pas un serviteur qui doit se mettre à genoux devant. Non, c'est servir, c'est donner à manger au public le mieux possible.
Magnifier,
c'est tout ça. Et le conteur, c'est pareil, il doit être au service de l'histoire. Et on voit très, très vite un conteur qui n'est pas au service de l'histoire, qui essaie de briller sur scène, eh ben, ça ne passe pas, quoi. Et je pense que pour un comédien, c'est la même chose, quoi. Donc c'est vraiment être au service d'eux qui est important.
En tout cas, dans ce festival, on va découvrir et on va se nourrir de tous ces arts. Un mot sur les arts plastiques, tiens, parce qu'on n'en a pas parlé.
Oui, alors, depuis l'an dernier, donc, il y a une exposition de peintres, collagistes, sculpteurs. Cette année, ils ont orienté leur travail. Alors, il y a deux artistes qui étaient déjà là l'an dernier, Nicou et Céline Rossignol, mais ça en rentrera plus dans les détails la prochaine émission. Mais ils ont centré leur travail sur la récupération. Donc, l'expo va s'appeler Récup Art. Et donc, c'est un travail, comment on peut, en récupérant des matériaux, faire une œuvre d'art, quoi. Donc voilà, ça peut être le support, ça peut être les matières, la façon d'assembler. Et donc, et puis peut-être qu'on aura la chance, parce que l'an dernier on devait l'avoir, et puis Alain avait eu un problème de santé, Alain Priard. Cette année, Alain a eu un gros problème de santé, mais je l'ai eu il y a tout dernièrement au téléphone, et ça lui ferait vraiment plaisir qu'il y ait au moins une statue de lui sur le site. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose d'Alain Prière aussi sur le site. Mais je rentrerai plus dans les détails
la prochaine fois.
C'est ça, il y a vraiment... Et puis en plus du... Donc j'ai parlé du... Il y aura un petit stand zéro déchet, il y aura le plastique, et on aura aussi la chance d'avoir dans le festival, à Cajar, on a l'immense chance d'avoir un éditeur qui s'est installé, et les éditions de Tertium, et Tertium sera présent sur le site pour présenter de la littérature pour enfants, du théâtre, mais aussi des livres sur des lieux à découvrir dans le Lot et tout ça, donc il sera présent pendant tout le festival.
On fait quelque chose de très fort dans le festival, c'est qu'on met à côté zéro déchet et les arts plastiques.
Ouais.
Oui.
Or,
oui,
zéro
oui,
déchet, oui. Déchet, ils ne supportent pas le plastique.
Oui.
Ouais,
c'est fort. Hein.
C'est toute l'ambiguïté du festival.
C'est tout le lien que l'on peut faire avec des choses absurdes.
C'est ça.
Moi, j'avais envie de vous terminer par une petite histoire.
Ah.
Mais de très courte, hein, parce que le but n'est pas de... faire une histoire longue, là. Non, je me posais la question un petit peu, et je me la pose souvent, et on se la pose tous, de l'utilité de la culture, si on élargit un petit peu. Je trouve que le Festival du Bordu est un bel exemple de ce que devrait être la culture dans le sens de rapprochement, lien avec les gens. Donc, je pense que les gens qui sont là sont ceux qui participent à construire un monde meilleur. Et je crois que si on avait des catégories à faire, il y a ceux qui essaient de faire un monde meilleur et il y a ceux qui essaient de profiter du monde qui existe et d'en soutirer tout ce qu'ils peuvent. Et les Amérindiens nous ont laissé une petite histoire qui illustre bien ce propos-là et où la culture, donc, on rentre dedans. On raconte qu'au plus profond de la Terre, il y a une grotte dont personne n'a jamais trouvé l'entrée. Au fond de cette grotte, un feu. Auprès du feu, une vieille femme. À côté d'elle, une espèce de grand et vieux chien jaune, Coyote. La vieille femme travaille. Elle brode une couverture en peau de bison avec des perles multicolores. Dès que la lumière du feu baisse, elle pose son ouvrage, se lève péniblement et se dirige vers le tas de bois. À peine a-t-elle tourné le dos, Coyote se dresse sur ses pattes et arrache sur la couverture toutes les perles que la vieille vient de coudre. La vieille prend une bûche, se retourne. Coyote se rassied comme si de rien n'était. La vieille revient vers le feu et jette la bûche dans les flammes. Les escarbilles montent dans l'air. Elle se rassoit lentement et reprend son ouvrage. Ces deux-là sont là depuis... très longtemps, à faire et à défaire le monde. On raconte que si la vieille parvient un jour à terminer son ouvrage, ou bien si Coyote parvient à arracher toutes les perles de la couverture, ce jour-là, messieurs, dames, notre monde s'endormira pour toujours. Voilà un petit exemple de ce que nous ont laissé les Amérindiens sur notre marche du monde.
Merci Michel.
Avec plaisir.
Merci Jean.
De rien.
On se voit bientôt pour parler plus précisément de la programmation. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée.
Merci Fred.
Merci de nous avoir reçus en tout cas.